soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin. Féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, 57 ex-otages des rebelles ADF, principalement des femmes et des filles, ont été rendus à leur famille à Beni le 3 décembre 2022, après une opération conjointe des armées congolaises et ougandaises. Une victime de 15 ans qui a été enlevée par les ADF le 14 août 2021 à Kikingi dit avoir été violée quotidiennement par un homme qui lui a été imposé comme compagnon. Une autre fille de 15 ans kidnappée en juillet 2022 à l'hôpital de Lomé dit que les ADF lui ont imposé comme compagnon un commandant du groupe rebelle. Parmi d'autres femmes et filles qui ont retrouvé leur famille, il y avait aussi une adolescente qui avait été kidnappée le 20 juin 2020 dans les champs à l'âge de 12 ans. La Française Stéphanie Frappard est devenue le 1er décembre 2022 la première femme à arbitrer en Coupe du monde de football masculine lors de l'élimination de l'Allemagne malgré sa victoire sur le Costa Rica. Elle était assistée par la Brésilienne Nosabak et la Mexicaine Karen Diza Medina, tandis que l'Américaine Catherine Nesbitt officiait en tant qu'arbitre assistante vidéo. Deux autres femmes, la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita, ont été retenues parmi les 36 arbitres de champ du Mondial 2022 au Qatar. Trouver une femme à l'arbitrage d'un match d'hommes est récent et rare, même au niveau amateur. Dans les grands championnats européens, la pionnière fut l'Allemande Bibiana Steinhaus, arbitre en Bundesliga entre 2017 et 2021. En France, les femmes arbitres sont un millier, soit 4% du total. Un plan de professionnalisation des arbitres féminines d'élite a été lancé par la Fédération française de football en janvier 2019. Abolition de la police des mœurs en Iran. Lors d'une conférence religieuse à Qom, le 3 décembre dernier, le procureur général Mohamed Jafar Montazeri a déclaré, je cite, « La police des mœurs n'a rien à voir avec le pouvoir judiciaire et elle a été abolie par ceux qui l'ont créée ». Considéré comme un geste envers les manifestants, l'annonce est intervenue après la décision des autorités de réviser la loi de 1983 sur le port du voile obligatoire. Après 1979, des comités relevant des gardiens de la Révolution menaient des patrouilles pour faire respecter le code vestimentaire et les mœurs. La police des mœurs, créée sous le président Mahmoud Ahmadinejad, a commencé ses patrouilles en 2006 pour répandre la culture de la décence et du hijab. En juillet 2022, le président Ebrahim Raisi avait appelé à la mobilisation de toutes les institutions pour renforcer la loi sur le voile. Le 24 septembre, le principal parti réformateur d'Iran a exhorté l'État à annuler l'obligation du port du voile.
Parole de femme.
Au Bénin, les femmes ont pris d'assaut le monde de l'entrepreneuriat et excellent dans la transformation agroalimentaire. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé, nous emmène à la découverte de deux femmes qui sont parties de rien, mais qui aujourd'hui émergent dans ce secteur. Nous allons les rencontrer à travers son reportage.
L'entrepreneuriat féminin fait son chemin dans un monde dominé par les hommes. Certaines femmes bardées de diplômes ont préféré démissionner de leur poste pour prendre le chemin incertain de l'entrepreneuriat. Odile Lyon, promotrice de la marque Nouré, met sur le marché la farine de souchet au gingembre ou à la banane plantain, la crème liqueur de souchet, le lait de souchet, les biscuits croquettes de souchet et bien d'autres.
Je suis véritablement et naturellement portée vers les petits commerces. Et depuis toute petite, j'aime vendre de petites choses. Et même déjà à l'université, j'achetais même déjà le souchet de 25 ans que je vendais en classe. Innover est aussi une passion pour moi. Et donc, j'ai constaté que d'abord, le souchet fait partie d'une espèce négligée, c'est-à-dire beaucoup ne s'y intéressent pas. Il faut que je fasse connaître le souchet autrement aux gens.
La passion accompagne souvent la vision ou l'inverse. Euphrasie Dassundo, fondatrice de l'entreprise AgroExpress, spécialisée dans la transformation de la tomate et des épices.
Mon entreprise a démarré avec 30 000 francs en 2013 où je transformais essentiellement des tomates, quoique j'arrivais à transformer 6 ou 8 paniers de tomates par jour. Mais aujourd'hui, notre unité a la possibilité de transformer une tonne de tomates par jour.
Odile Lyon, après ses études, s'est retrouvée dans un ministère de la place. Elle a vite compris que sa place n'était pas derrière un bureau, mais d'installer la plus grande entreprise de transformation de souchis en Afrique et dans le monde.
J'ai pris mon destin en main et j'ai réussi avec les bénéfices et les ventes que nous faisons, investir dans mon activité. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir convaincu mon père qui a laissé son terrain à notre disposition. Et là, j'ai pu construire ce centre dans lequel nous sommes. J'ai aussi acheté des machines pour la production.
Pour Daniel Lyon, le père de la jeune entrepreneur, cela n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, il se dit fier de sa fille.
Au départ, j'ai refusé. Elle insiste toujours. C'est une fille vraiment qui aime travailler. Elle a mis toute sa force dedans, toute son énergie dedans. Moi, je suis fier quand même. Si tu es dans ton projet personnel, ça t'arrange à vite te réveiller. Tu feras que tu es dans la main de quelqu'un.
Pour Euphrasie Dassundo à Soba, le chemin a été parsemé d'embûches.
Les débuts sont toujours compliqués. Pas mal d'obstacles. Surtout par exemple pour l'écoulement des produits. Faire accepter le produit aux clients, les gens ne s'y intéressaient pas vraiment. Donc il a fallu beaucoup de persévérance pour arriver au niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le soutien de la famille.
Odile a son diplôme en gestion de l'administration et celui de droit qui lui sont utiles dans son entreprise.
Mon diplôme en administration, ça m'aide à gérer d'abord la ressource humaine parce que parfois il y a des conflits qui naissent entre les employés. Donc il faut gérer tout ça. Maintenant, mon diplôme de droit me permet aussi de respecter les normes en matière d'entreprise.
Éphrasie Dassundo à Soba met ses connaissances au service des jeunes entrepreneurs qui désirent évoluer dans la transformation agroalimentaire.
J'ai commencé par me faire former dans la transformation proprement dite. Ensuite, j'ai suivi beaucoup de séances de coaching en entrepreneuriat, en gestion d'entreprise, gestion du personnel. Ces formations m'ont permis aujourd'hui de devenir formateur.
Aujourd'hui, appuyé par le PNUD de l'ambassade des États-Unis, le gouvernement béninois et les banques locales, elles sont nombreuses, ces femmes qui, comme eux, Éphrasie et Odile travaillent à donner de la valeur au secteur agro-industriel au Bénin. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Selon ONU Femmes, en Afrique subsaharienne, les femmes représentent 56% des nouveaux cas d'infection par le VIH, un taux encore plus élevé chez les filles et femmes de 15 à 24 ans. Représentant 66% des nouveaux cas. À l'échelle mondiale, sur 10 adolescentes et jeunes femmes de cette tranche d'âge, seulement 3 d'entre elles ont des connaissances complètes et exactes sur le sida. En Côte d'Ivoire, notre correspondante Delphine Bowies est allée à la rencontre d'une association de femmes vivant avec le VIH qui privilégie l'action communautaire. Voici son reportage.
Dame Alice est membre du réseau ivoirien des personnes vivant avec le VIH. La cinquantaine révolue, elle est déclarée séropositive depuis 1997. Cela fait 24 ans. Elle a vécu un calvaire et milite maintenant pour sauver des vies humaines.
J'accepte d'aller faire une émission avec Bamba Youssouf. Et quand c'est sorti, vraiment c'était difficile pour moi. Jusqu'à maintenant, il y a une voisine qui est venue le lendemain, dit à maman que mais comment tu peux accepter une personne qui vient avec le VIH? J'ai eu mal. J'ai dit non, il faut que je lutte, il faut que je milite vraiment. Voici d'où est sorti mon engagement dans la lutte. Et depuis lors, j'ai accepté de faire le témoignage parce que je me dis, à travers moi, à travers mes messages, ça va sauver des vies. Je ne suis pas fière d'être infectée, mais je suis fière de pouvoir sauver des vies.
À l'ONG Femmes Actives, nous retrouvons un couple et leurs deux enfants qui sont tous atteints du VIH. Ils habitent un quartier précaire de l'une des communes d'Abidjan. L'épouse explique les difficultés de cohabiter avec les autres à cause des nombreux préjugés.
Chacun a ses enfants. On ne peut pas connaître dans le cœur de tout un chacun. Donc, oui, je suis là, je ne sais pas si aujourd'hui je m'en vais leur dire. Là, ils vont dire pour ne pas que ça arrive aussi à leurs enfants.
Le couple et leurs enfants bénéficient du soutien de l'ONG et reçoivent leur traitement du centre de santé partenaire, loin des regards indiscrets. Leur petit garçon de 8 ans, bien que n'étant pas informé de son statut, il n'ignore cependant pas sa routine quotidienne. Fatoumata Traoré, conseillère communautaire, explique la prise en charge au niveau des enfants orphelins est rendue vulnérable du fait du VIH.
Les OEV, généralement, ce sont des enfants de 0 à 17 ans que nous prenons en charge. Ce n'est pas forcément tous les enfants infectés. Il y a les enfants affectés, puisque dans la famille, il y a un PVVIH.
Au sein du RIP Plus, l'action communautaire est prioritaire, nous confie Dame Alice.
Nous faisons la prise en charge psychologique de ces personnes-là. Ça, c'est la première des choses. Il faut partager ton expérience de vie avec la personne. Il faut l'encourager à accepter de faire le test et dépistage et faire le suivi dans la communauté qui est très important. Et il y a aussi des soutiens que nous apportons à travers les kits alimentaires, les différentes orientations que nous faisons. Les conseils que nous pouvons donner, c'est d'accepter mon statut sérologique. Parce que tout se passe dans la tête. Hein.
En Côte d'Ivoire, depuis 2008, l'accès au traitement antirétroviraux est gratuit. Le gouvernement mise sur la sensibilisation des jeunes à zéro transmission mère-enfant. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Si jeunesse pouvait.
Au Cameroun, les banques et les promoteurs culturels ont formé un partenariat pour lutter contre la précarité des musiciens. 20 jeunes artistes sélectionnés ont été formés à l'entrepreneuriat et à la gestion des revenus de leur carrière. C'est une initiative de la fondation de la Sparkasse, la caisse d'épargne allemande, avec le soutien d'une banque camerounaise. Ce projet dénommé Kulia suscite beaucoup d'espoir auprès des jeunes bénéficiaires. Retrouvons notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julntap.
Daniel Ondobo est coach vocal depuis 3 ans. Il est l'un des jeunes artistes ayant été formé à l'éducation financière et entrepreneuriale dans le cadre du projet Kulia. Au domicile familial à Douala, il s'est lancé désormais dans l'élevage des poussins.
Les artistes, ce sont des personnes qui dépensent beaucoup d'argent, mais pas toujours dans ce qui est utile. Kulia nous a amené à prendre des décisions, mais de façon progressive. Il ne faut pas aller te lancer dans quelque chose qui ne va pas te rapporter de l'argent, juste pour qu'on te voie, par exemple. Donc Kulia m'a amené à prendre cette conscience et à me lancer dans quelque chose qui est productif.
Miss Diallo réside aussi à Douala. Grâce au financement d'une banque locale, partenaire au projet, sa chanson a été mise sur certaines plateformes digitales comme Afrotune. Une grande première, elle, après 7 ans de carrière.
On cherche à soulever la tête, donc on a de l'espoir, on est équipé, mais on ne peut pas faire ça de nous-mêmes. Donc on exhorte nos frères, nos sœurs, les passionnés, de streamer pour que nous puissions produit des bonnes choses.
À Yaoundé, le jeune artiste Sianti Okoro a été également retenu dans le cadre du projet. Défenseur de la nature, Sianti rêve désormais grand.
L'accompagnement de l'initiative Koulia nous a permis d'avoir un crédit bancaire et d'enregistrer dans des studios professionnels. Et maintenant, j'ai une chanson enregistrée dans des studios professionnels disponibles sur les plateformes aujourd'hui et qu'on peut écouter en streaming ou télécharger partout dans le monde. Cette exploitation que les gens feront de mes œuvres va permettre que je puisse me faire de l'argent.
La cérémonie de lancement de la chanson collective dans laquelle interviennent les 20 artistes sélectionnés a eu lieu à Yaoundé. Écoutons la créatrice et directrice du projet Koulia, Isabelle Antounès.
À travers une meilleure éducation financière et entrepreneuriale, ils peuvent prendre leur carrière en main. Et ils peuvent devenir des entrepreneurs. Ils peuvent se mettre à même employer des gens. C'est-à-dire, ça peut être l'émergence des micro et petites entreprises en Afrique grâce aux musiciens.
De nombreux artistes camerounais ont achevé leur carrière dans la précarité. L'artiste Mista Leo, l'une des vedettes de la musique camerounaise, a parrainé les jeunes artistes du projet Koulia durant leur formation. Emmanuel Jounta, pour VOA Afrique, Yaoundé.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Selon un rapport de la Banque mondiale, seulement 3% des enfants de CM2 auraient un niveau de mathématiques et de langue satisfaisant au Niger et au Mali. Au Malawi, plus de 90% des élèves en fin de CE1 ne sont pas capables de lire un mot et ils sont 80% au Ghana. Des niveaux scolaires très faibles ont aussi été observés, notamment au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Au Togo, 30% des élèves aisés sont sous le niveau moyen en lecture, en sixième, contre 90% des pauvres. Au Burundi, environ 40% des enfants pauvres de sixième sont au-dessous du niveau exigé, selon le rapport. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, s'est dirigé vers les acteurs de l'éducation pour comprendre les raisons qui poussent les élèves à ne plus rivaliser avec les meilleurs de la sous-région.
Il est 10h à l'école indépendante de Bujumbura. Les élèves et professeurs se parlent pendant la récréation. Jadis joyau prisé pour l'enseignement public et privé au Burundi, le niveau aujourd'hui des enfants du primaire et du secondaire n'est plus le même comparé aux années antérieures. Difficile pour les élèves de s'exprimer sans anicroche dans la langue de Molière. Pour le syndicaliste Machandari, beaucoup de raisons expliquent cette baisse de niveau des élèves du primaire, secondaire et partant des étudiants de l'université du Burundi.
Les Burundais, d'abord, ce sont des gens qui mettent au monde beaucoup d'enfants. On voudrait que tous les enfants en âge scolaire puissent fréquenter l'école. Ça cause un problème au niveau des effectifs en classe. Deuxièmement, les moyens financiers. Et le Burundi n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir acheter le matériel qu'il faut pour chaque enfant. Donc, il faut surtout développer la coopération pour qu'il y ait quand même un appui, comme ça se faisait dans le temps. Troisièmement, il faut aussi encourager les enseignants. L'enseignant qui est démotivé, il fournit moins d'efforts. Autre chose est très importante en milieu du travail, il faut le dialogue.
Luc Naïmana, lui, est enseignant depuis de nombreuses années. Il reconnaît que le niveau des élèves et étudiants a sensiblement baissé depuis plusieurs années.
Je suis professeur pendant à peu près 22 ans et le niveau des élèves a diminué comparativement aux anciennes années parce qu'il y a le système qui a changé. On a changé le programme brusquement sans préparer les éducateurs et aussi on a changé le système. Donc maintenant la classe de 10e a été supprimée. Auparavant le système faisait 4 ans, maintenant c'est 3 ans, ça aussi ça peut être un facteur. Ça c'est au niveau général. À l'intérieur des pays où il y a des professeurs qui n'ont pas un niveau requis pour enseigner au niveau collège, ce sont les deux facteurs que je peux dire en gros.
Le directeur général au ministère de l'éducation nationale et de la recherche scientifique, docteur André Nduimana, affirme que beaucoup de facteurs poussent à ce que les élèves aient un faible niveau.
Comme responsabilité de l'État, de permettre de favoriser, si vous voulez, l'équité, on s'est dit qu'il faut élever le niveau de prestation des enseignants les plus faibles. On reconnaît que parmi les enseignants, il y a des enseignants très qualifiés qui ont de très belles prestations et qui ont de bonnes performances. Mais on reconnaît aussi qu'il y a des enseignants qui ne sont pas vraiment à la hauteur. Mais le souci du ministère, c'est de les élever plutôt pour élever par voie de séquence le niveau de compétence de nos enfants.
L'enseignement burundais est donc soumis à plusieurs difficultés pour que l'enseignement primaire, secondaire et académique revienne au même niveau que les années 70 et 80. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Entre parenthèses.
La pollution marine dans le monde atteint des proportions alarmantes. L'une des causes de ce phénomène est l'élimination anarchique des déchets solides, tels que le plastique. En Côte d'Ivoire, la plage Lido jouxte le canal de Vrédy, dans le quartier de Port-Boué, qui s'étale tout le long du littoral sur une dizaine de kilomètres. C'est ici que l'ONG 305 et ses partenaires ont décidé d'initier les jeunes Ivoiriens à la protection de l'environnement. Partons à la rencontre de ces écologistes en herbe à travers le reportage d'Alain Amonchi.
Port-Boué, plage Lido au sud d'Abidjan. Ici se trouve le canal de Vridi, entre la mer et la lagune. Sur les rives, des jeunes gens de 7 à 14 ans débarrassent la plage des déchets plastiques sous le regard de Ladji, président de l'ONG 305. Une organisation qui œuvre dans le domaine de la préservation de l'environnement.
Les actions qui ont été menées sont des actions de tri sélectif. Et depuis 4 ans maintenant, on pratique l'éducation environnementale. Et concrètement, en pratiquant le tri, on a une meilleure approche de pouvoir gérer nos déchets. Par derrière, à mettre les plus jeunes au cœur de la problématique, on espère que ils seront assez engagés pour faire changer les choses.
Aux côtés de l'ONG 305, François Greenberg, de Veritas, un bénévole qui s'est fixé pour objectif de nettoyer les plages remplies de déchets, surtout les bouteilles et autres objets plastiques.
Une urgence, hein, quoi. Il suffit de se promener le long des différentes plages, voir tout ce que la mer rejette qui vient de la lagune. Il y a vraiment une urgence à faire et à travailler aussi en amont pour éviter qu'il y ait une production de ces déchets qui se retrouve ici. Donc il y a deux actions à faire au niveau de la production de ces déchets en amont et aussi en aval pour essayer de nettoyer tout ce qui est atterri dans nos plages.
Pour cette journée, la centaine d'enfants a collecté 43 sacs plastiques, 35 sacs de chaussures et 33 sacs d'emballage unique. Autant de déchets qui suscitent l'inquiétude de Marie-Josée, partenaire de l'ONG 305.
Est-ce que nos populations comprennent que juste le fait de jeter une bouteille, un sachet d'eau, plutôt que de le garder dans son sac ou dans sa poche, même si on n'a pas vu de poubelle, ça sauverait beaucoup plus nos populations que juste jeter par terre.
Et je le préserve.
Une classe écologique qui fait de ses enfants des combattants de l'environnement. Après le canal, c'est l'île flottante qui les reçoit pour d'autres cours sur l'environnement et des techniques de recyclage. Selon les experts, la pollution plastique est une menace réelle. Chaque jour, 8 tonnes de déchets plastiques finissent dans l'océan et sont charriées sur les rivages. D'où l'importance de cette balade sur la lagune pour permettre aux tout-petits de se rendre compte des dangers de la pollution. Alain Amonchi pour VOA Afrique, Abidjan.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
Arrête.